Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Un sujet fort, grave, a pris ces derniers temps une grande place dans l'actualité et dans le débat public, à juste titre. Il s'agit des violences faites aux femmes dans le cinéma et aussi ailleurs. Bien sûr, nous le savons, nous allons aborder à la façon de Divergence FM cette question en présentant une initiative réalisée localement qui, de plus, peut avoir un développement national. Cette réponse à la prise en compte des violences dont les femmes sont victimes a une double particularité. Elle est due à un homme qui est médecin. Le docteur Antoine Guernion a conçu et testé une formation au dépistage des violences conjugales par les médecins généralistes. Antoine Guernion, bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous avez commencé vos études de médecine à Rennes, puis effectué à Montpellier principalement, à partir de 2018, votre internat de médecine générale. En novembre dernier, vous avez soutenu votre thèse de médecine générale intitulée « Élaboration et évaluation », nous y reviendrons, de l'outil ABCDE pour le dépistage par les médecins généralistes des violences conjugales. Actuellement, pour avoir le temps de poursuivre ces recherches, nous allons en parler aussi, vous effectuez des remplacements dans la région de Montpellier. Vous êtes aussi médecin bénévole pour l'association humanitaire Médecins du Monde. Avant de traiter le sujet qui vous a conduit devant ce micro, merci pour commencer sur un mode plus léger et pour être fidèle à la formule de cette émission, de nous raconter votre Montpellier. Vous habitez donc depuis 5 ans. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous installer à Montpellier pour poursuivre et à parachever vos études, plutôt que de rester à Rennes ou aller ailleurs? Pourquoi Montpellier?
Bonjour, et bien merci pour l'invitation. Alors nous, on avait l'occasion à la fin des études de pouvoir changer de ville. Et moi, j'étais breton d'origine et ma compagne ne l'était pas. Elle était partante pour descendre au soleil. Elle
m'avait dit.
Et on a découvert Montpellier.
Ça, c'était le volet people de cette émission. Alors, on démarre donc cette petite approche. Quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez, en particulier ceux qui ne sont pas nécessairement les plus connus?
Alors moi, j'aime bien, à côté de chez moi, derrière l'agrocampus au nord de Montpellier, il y a une réserve naturelle, la réserve du Lez, qui est vraiment, qui borde le Lez sur quelques
kilomètres.
Les
rives du Lez où on peut se promener.
Déjà, là, les rives du Lez.
Pique-niquer.
En toute tranquillité. On est en plein dans les travaux sur le parking et on fait quelques mètres et on se retrouve en pleine nature, sans bruit, avec le chant des oiseaux et les arbres autour. Et ça, c'est assez agréable de flâner là-bas.
Et un autre lieu peut-être?
Oui, après c'est certains lieux du centre-ville auxquels j'aime bien aller de temps en temps. On a nos petits repères, certains bars, je ne sais pas si je peux donner les noms.
Oui, dites-moi, il n'y aura pas de rémunération de bar pour Divergence, donc pour y aller.
Le Blue Bambino, qui est un bar qui vient d'ouvrir là dans le centre de Montpellier.
C'est de quel coin ça?
C'est pas loin des halles de la préfecture. D'accord. C'est vraiment à côté, c'est un bar
sympa.
Très
bien. Alors, quand vous recevez des amis ou des membres de famille qui passent à Montpellier ou qui séjournent quelques jours, que leur dites-vous de la ville pour essayer de la décrire, de raconter ce qu'elle est, en quoi elle se distingue peut-être d'autres villes?
Je pense que le charme, c'est d'aller dans le centre-ville, de prendre une petite ruelle au hasard et de se laisser perdre dans les ruelles. Et c'est là qu'on se rend compte, qu'on découvre, même moi encore, j'arrive pas à me repérer dans les ruelles au bout de 5 ans, on découvre des nouveaux coins qu'on n'a jamais vus, des boutiques qu'on n'a jamais vues, des ruelles, je pense à toutes les ruelles qui sont autour de l'église Saint-Roch, où on peut flâner, perdre des heures, et c'est assez agréable de se promener là, même en plein été.
Voilà donc une petite indication pour ceux des auditeurs qui ne se seraient pas livrés à ce plaisir. On va venir maintenant à votre initiative. Et d'abord, première question, le prix Agnès McLaren vous a été décerné. Alors, dites-nous qui était Agnès McLaren et qu'est-ce que ce prix honore.
Alors, Agnès McLaren, c'était une femme écossaise d'origine
comme son nom l'indique.
C'est ça, c'est ça, il y avait un indice. Et qui voulait à tout prix faire des études de médecine, devenir médecin, sauf qu'en Écosse, c'était impossible pour elle. Donc, elle a émigré jusqu'à Montpellier et donc, elle est devenue première femme écossaise médecin grâce à la faculté de Montpellier.
Et alors, c'était quand, ça, quelle année?
C'était au 19e siècle, début du 19e siècle.
Ouais. Et donc, il y a un prix qui salue, je dirais, cette distinction de cette McLaren dont vous avez été le récipiendaire, comme on dit. Et ce prix, donc, il est destiné à mettre en valeur quel type de qualité?
Alors, c'est un prix qui est censé récompenser les thèses et les projets post-thèse qui se portent sur la santé et la protection des femmes et des personnes vulnérables en général. Donc là, c'est vrai que... Moi, je l'avais eu cette année. Et puis l'année dernière, c'était une médecin qui s'occupait de la santé des travailleuses du sexe autour de Montpellier qui l'avait aussi remporté. Donc c'est ce thème-là, en général, qui est récompensé par ce prix.
Avec une petite bourse, petite quelque chose.
C'est ça. En fait, on a un peu d'argent pour pouvoir financer justement le projet post-thèse qui débouche logiquement ensuite.
Sur lequel vous êtes penché, dont nous parlerons dans quelques instants. Alors... pourquoi vous êtes penché sur la violence faite aux femmes? Vous n'avez pas conviction sur ce sujet, pas pour une raison plus personnelle, la qualité, le déclic de votre intérêt particulier porté à cette question?
Non, le déclic, c'est que je pense que, comme beaucoup, j'ai réalisé que je sous-estimais sa fréquence. Je me rendais compte, j'ai fait mes premiers stages chez une médecin qui, quand on débriefait les consultations avant ou après, elle arrivait à me raconter que quasiment, peut-être 2 femmes sur 3 avaient été victimes dans sa patientèle de violences, alors violences conjugales ou violences même diverses, abus dans l'enfance. Et moi, j'étais pas du tout conscient de ces chiffres-là. Alors, je m'étais dit, soit c'était vraiment elle qui avait une patientèle vraiment malchanceuse, ou soit c'était moi qui avait un problème de ce côté-là. Je me suis rendu compte que c'était plutôt moi.
Donc, ça valait le coup d'aller regarder de plus près.
Ça valait le coup, ouais, de se rendre compte de la fréquence du phénomène.
Et donc, c'est ce constat donc, sur l'ampleur de ce phénomène bon, qui vous a conduit à choisir ce sujet de votre thèse, bon, de faire valider ce sujet, j'imagine, par votre directrice de thèse, et donc de vous attacher, on va le voir, à examiner cette question d'une manière, bien sûr, fouillée.
C'est ça, oui, parce qu'en plus, je me suis rendu compte que les violences conjugales étaient responsables de plein de pathologies diverses, et donc ça avait du sens en tant que médecin, quand même, d'être au courant de ces faits, et de pouvoir éventuellement aider à les solutionner dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie des femmes qui en étaient victimes.
Alors, bien sûr, des atteintes physiques, psychologiques, de divers ordres et de diverses gravités.
Exactement, et même des choses auxquelles on ne pense pas forcément, des douleurs digestives qu'on n'explique pas, des décompensations de diabète qu'on n'explique pas, des infections sexuellement transmissibles, des fausses couches, des voilà, toutes ces choses-là.
Un grand nombre de pathologies.
Exactement, ouais, vraiment diverses, et pour lesquelles des fois on se retrouve un peu en difficulté en tant que médecin, on n'a pas l'explication, et donc de pouvoir penser à ces sujets-là, des fois ça peut débloquer des situations qui nous mettent sinon en échec. Ouais.
Oui, parce que cette idée quand même de me soigner pour le coup, sur ce sujet particulier dont on sait maintenant l'importance qu'il a dans notre bonne ou prétendue bonne société. Alors, en sus de ce qui se passe au sein du couple, il y a aussi des violences aussi, vous l'avez un peu évoqué, dans d'autres milieux professionnels, sportifs, associatifs. Pourquoi avez-vous choisi de vous consacrer particulièrement ou de circonscrire votre travail sur les violences à l'initiative du conjoint ou de l'ex-conjoint?
Eh bien, je les ai choisis, ces violences-là, parce que finalement, en regardant dans les études, je me suis rendu compte que c'était les plus fréquentes.
Oui.
Avant même les violences dans la rue, les violences au travail, et que c'était aussi potentiellement aussi les plus dangereuses pour la santé. Et donc je me suis dit que quitte à en choisir une catégorie, j'allais me concentrer sur celle-ci. Hein.
Voilà, bon, ça c'est un travail normal, je dirais, pour affiner le sujet de thèse et pour lui donner sa pertinence ou sa cohérence en même temps, j'imagine.
Exact.
Voilà, de bien cadrer le domaine, le champ dans lequel votre recherche s'est exercée.
Exactement, ouais, c'est ça, il fallait choisir un cadre précis et donc il a fallu cerner petit à petit le problème pour avoir une question restreinte.
Alors ce phénomène tel qu'il était antérieurement décrit, y compris par ce nombre d'études françaises ou autres, quelles étaient les principales caractéristiques qui ont servi un peu de point de départ, de socle de l'élaboration de votre méthode et des conditions dans lesquelles vous avez réalisé ce travail-là sur le diagnostic.
Et ben alors moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir pourquoi est-ce que les médecins ne dépistaient pas assez, comme c'était mon cas jusqu'à là, les violences conjugales. Et au début, je me suis dit que c'était peut-être un manque de volonté. Et finalement, les études montraient que non. Quand on leur posait la question, 96% des médecins disaient qu'ils étaient plutôt partants pour dépister davantage les violences faites aux femmes au sein de leur patientèle. Et donc, à partir de là, je me suis demandé si c'était pas plutôt un problème de formation. Et en effet, j'ai vu qu'il y avait eu plusieurs formations qui avaient été proposées aux médecins qui marchaient quand même pas terriblement bien, c'est-à-dire qu'elles montraient que les médecins dépistaient un peu mieux dans les semaines qui suivaient. Et puis finalement, ils arrêtaient très vite. Alors.
Ah, c'est-à-dire que l'efficacité de la formation, de ce type de formation telle qu'elle était conçue, restait quand même assez faible.
C'est ça, transitoire. Et donc à partir de là, je me suis demandé pourquoi est-ce que cette efficacité ne durait pas. Et l'hypothèse qu'on a voulu poser, c'était de se dire bah, peut-être que ça ne fonctionne pas parce que les formations qui avaient été étudiées jusque-là ne prenaient pas suffisamment en compte les problématiques réelles des médecins au cabinet. Et donc les formateurs leur imposaient des contraintes, des modes d'activité qui étaient incompatibles avec la pratique
habituelle en cabinet. Quoi.
Exactement.
En consultation. Oui.
Et donc on a voulu trouver un mode qui soit à la fois bien traitant pour les femmes et qui soit faisable pour les médecins, un dépistage qui puisse concilier les deux acteurs.
Alors, autre frein que vous avez également identifié, que vous êtes forcé de traiter, la question du temps disponible, c'est le temps dévolu à la consultation, la durée de la consultation. J'ai beaucoup de patients qui attendent à côté dans la salle d'attente. Bon, je ne peux pas consacrer 10 minutes de plus à cette patiente. C'est un peu ça, là, où, quand vous me parlez du facteur temps.
Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que bah, souvent, on le sait, enfin, quand on est dans une salle d'attente, on sait que souvent les médecins ne sont pas à l'heure. Ils sont souvent débordés, ils prennent des urgences entre deux. Et donc, quand vient le moment de poser la question des violences, c'est un peu un pari où on se dit, si elle me répond non, j'en ai pour 15 secondes. Si elle me répond oui, je me mets encore un peu plus en retard. Et donc, il y avait beaucoup de médecins qui se freinaient à dépister, justement, parce qu'ils avaient peur de cette répercussion sur leur planning.
Ouais, en allant au-delà de ce qui était prévu, dans la demande portée par la patiente liée à telle ou telle pathologie.
Exactement. Et donc, ça remettait encore davantage en retard les patients suivants. Et donc, cette pression-là faisait qu'ils avaient tendance à s'inhiber pour le dépistage.
Ouais. Alors, autre frein que vous avez identifié, là, qui concerne le... On en a parlé, les suites, hein, je veux dire, bon, je fais cette démarche-là, je ne peux pas aller jusqu'au bout, en tout cas, je ne peux pas la traiter complètement moi-même. Sur quoi puis-je m'appuyer? Cette méconnaissance-là des dispositifs institutionnels ou associatifs, elle participait aussi de la faible activité des médecins dans ce champ-là du dépistage. C'était ça aussi, ce que vous avez identifié, ce que vous avez confirmé.
Exactement, ouais. Ça c'était le troisième frein en fréquence, les deux premiers donc c'était manque de formation et manque de temps, le troisième frein en fréquence c'était la méconnaissance du réseau, c'est-à-dire que les médecins ils pensaient que bah voilà, à quoi bon dépister si elle me répond oui, je sais absolument pas quoi lui répondre et je sais pas du tout vers qui je peux l'orienter localement là où je travaille, et c'est un frein qui paraît légitime comme ça, et donc c'était une bonne raison pour ne pas dépister, et donc l'idée c'est de fournir une réponse à ces médecins, leur fournir le catalogue local des
points d'appui, des relais. Quoi.
Exactement.
D'accord. Et alors, dernier point, mais celui-là, on va l'évoquer, mais y revenir plus tard, c'est l'attitude, hein, la crainte de la réaction de la patiente sur un sujet intime et on ne peut plus délicat. Donc ça aussi, vous avez confirmation que ça constituait un frein au développement des formes diverses là, de dépistage.
Exactement, et c'est vrai que dès qu'on touche aux questions intimes, c'est le cas de la question des violences, c'est le cas aussi de la question de l'utilisation des écrans, etc. Dès qu'on touche à la vie privée, on sait que la question est des fois un peu plus sensible, un peu plus difficile à poser, et donc il y a des médecins qui s'inhibaient aussi par rapport à ça.
Alors, voilà les quatre freins là, que vous avez identifiés dans la phase préparatoire à votre travail. Il y a aussi, on le sait bien, des freins psychologiques liés aux mentalités, aux représentations. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont là quand même. On disait tout à l'heure que bon, 96% de médecins étaient prêts à jouer le jeu. 85%, j'imagine, d'un échantillon restreint. En tout cas, on le voit bien avec les sujets qui ont fait florès, pas quoi, les problèmes chez les gynécologues, par exemple, que cette question-là, elle est là quand même, et que les médecins sont souvent, bon, moins maintenant des hommes, étaient longtemps majoritairement des hommes, très majoritairement autrefois, et donc ce frein-là, il est quand même là.
Oui, c'est vrai que... Alors, je pense que pour beaucoup, finalement, c'est un mécanisme de défense en se disant, bah, c'est un sujet que je ne connais pas, donc...
Je ne sais pas me prendre, je ne sais pas, mais voilà, je ne sais pas me débrouiller avec ça.
Donc, je vais dire que ça n'existe pas.
Je ne sais pas être professionnel sur ce sujet-là, ça peut se résumer comme ça.
Et donc, ils se disent, ce problème n'existe pas, ou alors ce problème ne concerne pas mes patientes. Et puis, finalement, c'est vrai que je pense que, comme partout, il y a toujours un petit pourcentage de personnes qui voient pas le problème forcément avec les violences conjugales, et je pense que ce pourcentage il est présent chez les médecins comme chez les autres.
Il n'y a pas de raison que les médecins soient épargnés, ni meilleurs ni pires que d'autres. Donc l'analyse de la situation, le diagnostic, si j'ose employer ce terme, que vous avez dressé a déterminé les objectifs de la formation. Alors par rapport à ce que vous indiquez, la situation, le phénomène, la manière dont il se présentait et les freins, donc quels étaient donc les objectifs que vous avez identifié dans la formation, et ensuite, bien sûr, on va le voir, suivi des faits, dans la manière dont cette formation a été pensée et mise en œuvre.
C'est ça. Alors, nous, ce qu'on voulait, c'était de trouver un mode de formation qui soit rapide, parce que les médecins, c'est vrai, n'ont pas beaucoup de temps à accorder à chacune des problématiques, et puis qui soit suivi des faits. Et non seulement c'était pour se démarquer un peu des formations qui avaient été essayées par le passé, c'était d'avoir une formation qui ait des effets immédiatement, mais une formation qui ait aussi des effets qui persistent dans la longueur. C'est-à-dire que nous, c'était important de suivre les médecins sur une période prolongée pour voir, confirmer ou pas, que la formation permettait un dépistage qui se poursuivait au-delà des quelques semaines qui suivaient.
Alors, ça correspond à ce que vous indiquez, c'est que les formations entièrement mises en œuvre avaient trouvé rapidement leur terme, en tout cas, n'étaient pas dans la durée, ne se perpétuait pas, et donc vous avez dit qu'il fallait quand même faire en sorte que la formation puisse s'installer dans le temps, et pour le coup s'améliorer, que les médecins acquièrent une expérience spécifique en la matière pour que ce travail de dépistage puisse se poursuivre. C'était ça la préoccupation que vous aviez.
C'est ça, oui. Finalement, de ne pas imposer une pratique qui leur paraît être une charge de travail supplémentaire, mais de l'intégrer dans une routine qui fait qu'ils finissent par le faire sans s'en rendre compte et de continuer à poser la question toute leur carrière sans que ça représente une charge de travail supplémentaire.
Donc, face à ces freins, vous avez identifié des éléments de réponse, des solutions, des principes au moins. Vous pouvez nous les indiquer, là, comment vous avez... mis en face de ces problématiques des éléments de réponse.
Oui. Alors, pour le manque de formation, finalement, on s'est rendu compte que toutes les formations théoriques qui pouvaient exister sur les définitions, les chiffres de la violence, la législation, tout ça, finalement, ça n'a pas grand intérêt pour les médecins. Ce qu'il leur faut, c'est d'avoir des outils pratiques où, quand ils sont au cabinet face à une femme, ils aient une sorte de protocole pour pouvoir dire, tiens, cette femme-là, je vais la dépister de telle manière, et si elle me répond oui, je vais pouvoir lui répondre de telle manière. Donc ça, c'était vis-à-vis du manque de formation, de pouvoir leur donner des outils pratiques. Le manque de temps...
Attends, je vous arrête sur la formation, puis on reviendra vers les autres. Ça signifie que dans la formation initiale classique des médecins, il n'y a rien ou pas grand-chose sur ce sujet?
Non, on n'a pas de
formation. En tout cas, votre thèse était en novembre dernier, donc ça concerne dans les médecins, les nouveaux jeunes médecins. Et dans votre parcours, vous n'avez pratiquement rien eu sur ce type de sujet?
Non, on n'a pas de formation obligatoire sur le sujet des violences. On a surtout des formations sur les certificats médicaux, mais c'est vraiment pour toucher plus au côté réglementaire qu'au côté humain. Alors à la faculté de Montpellier, il y a une formation optionnelle pour les médecins généralistes, mais qui n'est pas généralisée à l'ensemble du territoire.
D'accord. Alors donc, on reprend là sur les réponses aux freins telles que les avez pointées et mises en œuvre dans le process de formation. Donc il y avait la question du frein de la formation, la question du manque de temps, vous l'avez dit, quelque chose qui soit rapidement mise en œuvre et donc qui ne freine pas exagérément la durée de la consultation, puisqu'il y a des patients qui attendent à la porte. C'est ça à peu près le... Quelque chose d'assez court, quoi, d'assez ramassé dans le temps.
D'assez protocolisé. Et surtout, les médecins généralistes, ils n'ont pas le temps sur le coup, mais ils ont le temps sur la longueur. Donc, c'est-à-dire qu'on leur propose de favoriser un suivi dans le temps plutôt qu'une réponse exhaustive à un moment donné. Et donc ça, on essaye de privilégier beaucoup là-dessus. Ouais.
D'accord. Alors, la méconnaissance du réseau local, ça veut dire des informations données, une orientation, pour reprendre votre mot. Il y a telle au pluriel, en général, association en proximité, localement, qui accompagne les femmes qui ont à gérer cette situation pour les aider à faire ce parcours un peu compliqué, qui peut voir à la fois des choses relevantes de la prise en compte des problèmes de santé, mais aussi pas seulement, ça peut conduire, je dirais, à un dépôt de plainte, par exemple, bon, qui sont bien sûr des démarches hors du champ médical, mais qui peuvent résulter du dépistage, la plainte devant le procureur de la République ou chez les gendarmes ou au commissariat de police, ça fait partie des résultantes possibles d'un dépistage, j'imagine.
Exactement, oui, ça fait partie des objectifs possibles. Et c'est vrai que du coup, pour ce frein-là, nous, on intervient avec une association. À chaque fois qu'on va dans un cabinet, il y a une association qui est vraiment active localement.
Ouais, qui a une expérience, donc une expérience avérée, je dirais, de qualité de l'accompagnement.
Exactement, et qui peut servir de passage de témoin quand le médecin révèle des faits de violence. Il peut orienter la femme vers cette structure qui est vraiment pas au pas de sa porte.
Ça montre bien, je l'ai indiqué tout à l'heure, et vous l'avez déjà explicité, que par rapport à la démarche habituelle du médecin, on prend soin avec une ordonnance, avec un traitement d'une manière générale, ou pour la prescription vers un spécialiste, par exemple. Là, ce n'est pas le cas. Donc, le médecin, dans cette trajectoire, dans cet accompagnement habituel, il s'arrête, mais il ne laisse pas, bien sûr, la patiente démunie pour savoir quelle porte frapper pour traiter le gros souci ou la grosse souffrance qu'elle a, quoi. C'est bien ça.
C'est ça. En fait, on s'est rendu compte, quand on regarde les études, on voit que finalement, de donner la solution et d'être proactif au détriment de la liberté de la femme, non seulement c'est pas forcément c'est assez discutable sur le plan éthique, mais surtout, ça marche pas. C'est-à-dire qu'on voit qu'on peut essayer de forcer une femme à faire à avancer dans son cycle, à porter plainte, à quitter son conjoint. Mais tout ce qu'on pourra faire qui ne viendra pas d'elle, ça ne marchera pas. Il faut plutôt qu'on arrive à se trouver ce rôle de moteur et de pouvoir la motiver à avancer dans son cheminement. Exactement. Alors, ça s'appelle l'entretien motivationnel. Je ne suis pas le spécialiste d'entretien motivationnel, mais c'est un peu ce mécanisme-là qui fait que petit à petit, on va donner à la femme les clés pour avancer, pour qu'elle puisse prendre sa décision.
Donc,
au bon moment.
Bien dans cet échange tel qu'il se déroule normalement, habituellement, entre le patient et la patiente, pardon, et le médecin, la médecin, que cette contribution complémentaire du médecin s'installe, quoi, et notamment dans la confiance, se confier, c'est avoir confiance, et c'est bien là-dessus qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, c'est-à-dire les aspects amont, quoi, on va y revenir, de méthode de détection, je dirais, de dépistage, ABCDE, là, dont on va parler, mais c'est quand même autour de ça que les choses se jouent, notamment en essayant d'identifier ou d'avoir en tête les raisons personnelles, les causes personnelles du silence. On voit maintenant qu'il y a des femmes qui mettent 20 ans, 30 ans, 40 ans pour parler complètement et librement. Elles le font un peu de manière allusive, mais assez claire. Bon, Judith Godrech, dans la série qu'elle a réalisée, où on trouve des choses assez apparentes, mais pas totalement dites, de ce qu'elle a subi. Et donc, je trouve que c'est intéressant de dire aux auditeurs, auditrices, aux uns et aux autres d'ailleurs, que c'est bien dans cette relation-là, dans le secret du cabinet, que ça se joue, que ça se dénoue ou ça ne se dénoue pas d'ailleurs.
Oui, complètement. Et en fait, l'avantage qu'on a, c'est qu'on se rend compte que même si on pose la question et qu'une femme nous répond non, et qu'il y a finalement quand même des violences, on sait que même si elle nous répond non, on augmente ses chances quand même de se saisir dans les jours ou les mois qui suivent d'une association ou d'une personne de son entourage avec qui elle est plus à l'aise, etc. Donc même quand on a un non, on sait qu'on a quand même agi positivement, et donc ça, c'est vraiment assez gratifiant de se dire que quoi qu'on fasse, on a un effet positif quand même.
Très bien. Alors, à grands traits, pour nous dire quels sont les grands volets de la formation, les grands chapitres, et puis on développera ce qui me semble le plus, c'est un peu la méthode, puisque je pense qu'elle est tout à fait compréhensible de quiconque, même par un médecin. Alors, les grands volets de la formation tels qu'ils étaient, que vous avez conçus au départ et que vous allez améliorer, peaufiner dans quelques temps, quels étaient-ils? C'est un grand chapitre.
Alors, en gros, on a trois sujets qu'on aborde avec les médecins. Le premier sujet, c'est de savoir comment est-ce qu'on pose la question, dans quel contexte, et que ça vaut le coup de poser la question, comment est-ce qu'on pose la question. Et puis ensuite, c'est une fois qu'une femme nous a répondu oui, ça c'est le deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire de cette révélation? Comment est-ce qu'on peut réagir? Qu'est-ce qu'il faut savoir dire? Qu'est-ce qu'il faut éviter de dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire, éventuellement les certificats médicaux? De pouvoir leur donner comme ça un protocole de différentes tâches à réaliser en cas de révélation. Et puis le troisième point, c'est l'association locale qui se présente et qui donne éventuellement ses coordonnées et les moyens de la contacter. Voilà, tout ça, ça se fait sur 1h30, 2h de formation et directement au cabinet des médecins qui nous sollicitent.
Alors ABCD, c'est abonné, racontez-nous.
C'est ça. Alors ça, c'était le...
c'était mnémotechnique, j'imagine.
C'est le point d'ordre.
C'est un système qui existait dans d'autres champs où vous avez...
Non, je l'ai adapté parce que en médecine, les moyens mnémotechniques, on aime bien les utiliser. Je m'étais dit que j'allais créer le mien en passant. Et donc le moyen ABCDE, c'était de se dire... plutôt que d'essayer de dépister toutes les femmes à toutes les consultations, ce qui, on sait, n'est pas faisable pour les médecins, on va privilégier 5 situations dans lesquelles peut-être ils ont un peu plus le temps de le faire, et peut-être ils ont un peu plus les moyens de le faire, et peut-être c'est un peu plus logique de poser la question.
D'accord, c'est plus proche de leur pratique habituelle.
C'est ça, exactement. C'est plus facile à faire, et donc on les a regroupés sous le terme ABCDE, c'est-à-dire que les médecins sont encouragés à dépister A, quand il y a une nouvelle patiente qui arrive dans la patientèle, donc A c'était pour arriver, B c'était pour bébé, découverte de grossesse ou demande d'IVG, C c'était pour symptômes chroniques inexpliqués,
comme vous avez évoqué, des symptômes plus ou moins graves quand même qui montrent qu'il y a un état de santé altéré et dont la cause ou une des causes peut être les violences.
C'est ça, et qu'on n'explique pas. Et le D, c'était pour dépression, c'était une consultation pour soit dépression, soit trouble du sommeil, soit trouble anxieux. Et E, c'était pour signe évocateur, c'est-à-dire que s'ils avaient quand même une situation qui ne rentrait pas dans les 4 cases et qui leur était suspecte pour eux, ils pouvaient quand même poser la question.
Voilà, donc ça, c'est des situations, en fait, 5 situations assez courante pour le coup.
C'est ça, exactement. Moi, c'est sur une journée, c'est peut-être une situation qu'on voit 1 ou 2 fois dans une journée. Donc finalement, si on dépiste 1 ou 2 femmes par jour, toute une vie, ça représente à la fin un sacré paquet de personnes. Ouais.
Alors, vous le savez, et vous avez pris ça en compte, la solidité, la pertinence d'une formation et son amélioration possible passe par l'évaluation. Donc, vous avez quand même mis au point un protocole d'évaluation en phase 1 de votre recherche. Quels ont été les résultats de l'expérimentation auxquels ont contribué 10 médecins généralistes?
C'est ça. Alors nous, au départ, la thèse était surtout pour fabriquer cette formation. Et puis, on a quand même voulu l'évaluer. C'est vrai qu'on a trouvé 10 médecins pour le faire. Les 10 médecins donc, ont participé à la formation. On les a suivis pendant 1 an. Et on a vu que de 15% de femmes dépistées avant la formation au sein de leur patientèle, on était passé à 41% de femmes dépistées.
Donc... presque 3 fois plus, donc oui.
C'est ça. Et surtout, ce qui nous intéressait davantage, c'était qu'on voyait que le taux de dépistage restait constant au fur et à mesure de l'année. C'est-à-dire que c'était pas un...
Donc il y avait un acquis de la formation, une appropriation de la formation qui a produit des effets durables.
C'est ça. Enfin, c'est l'impression qu'on en avait. Après, le problème, c'est que 10 médecins, c'est insuffisant pour conclure. Donc on ne peut pas... conclure vraiment avec beaucoup de preuves sur notre...
Oui, donc vous avancez ces thèses, enfin ces éléments d'analyse, d'évaluation avec prudence.
C'est ça.
Mais il s'agit maintenant de conforter, donc avec la deuxième phase de cette étude que vous préparez, avec l'objectif d'avoir un plus grand nombre de médecins généralistes contributeurs dont vous avez besoin.
Exactement.
De confrères qui viennent vous accompagner. Donc vous pouvez en dire un mot et peut-être donner aussi la... dites ce que vous attendez d'eux, tout simplement, et puis donnez vos coordonnées ou ceux des médecins qui seraient à l'écoute ou leurs proches puissent venir vous proposer leur participation.
Super, bah c'est gentil de me laisser le faire. Oui, c'est vrai que nous, du coup, tout l'enjeu, c'est de voir si vraiment, à plus grande échelle, les effets-là se confirment ou pas. Et donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à recruter des médecins sur tout Montpellier, d'autant que pour l'instant, on n'a pas eu de médecin de Montpellier à participer, mais aussi tout l'Hérault et tout le Gard, de leur proposer justement cette formation sur 1h30, 2h, directement au sein de leur cabinet pour que ce soit plus pratique.
Oui,
pour
en
eux.
Ligne, donc, oui. En ligne, oui.
Non, en direct.
Mais sur mesure, alors.
En présentiel.
Ah, en présentiel et sur mesure.
Directement, oui, sur mesure, exactement.
C'est par rapport à ce qu'est la manière de faire, de penser la chose, aux pratiques de vos confrères.
Pour que ce soit plus pratique pour eux, ouais, c'est d'accord. Ça, de participer et de les suivre sur 1 an, c'est-à-dire leur envoyer 4 mails de suivi dans l'année, pour voir si oui ou non la formation leur a permis ou pas d'augmenter leur pratique de dépistage. Alors, du coup, s'il y a des médecins qui sont intéressés pour participer, je donne l'adresse mail à laquelle ils peuvent me joindre. Donc, c'est Agnès McLaren, du nom du prix, donc AGNESMC LAREN, tout cool. attaché, @free.fr.
Voilà, très bien. Merci. Donc, Agnès Malareng, qu'on a évoqué au début de notre entretien, pour pouvoir vous joindre. Bien, merci à vous, Antoine Gagnon, une prochaine fois peut-être.
Eh ben, merci beaucoup de votre invitation.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.